les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Un chat sans moustache est une créature méprisable. Et le chat est de la race des lions. Sauf que le héros a terriblement peur des lions. Alors, le chat. Il se rend chez un cordonnier pour se faire faire des bottes. Cela rappelle quelque chose, bien sûr. Sauf que le chaboté de Ludwig Tieck n'est pas le chaboté habituel. Il parle, certes, mais il tient des propos incohérents, fâcheux. Ce chat n'est pas le seul personnage apparaissant dans l'émission qui vient, la deuxième d'une série de trois, rire jaune et humour noir, humour anglais et ironie romantique. Première diffusion sur la chaîne nationale, le 5 avril 1959.
Dans une première émission, nous avons cherché non pas à définir l'humour, mais à découvrir à travers des exemples très disparates quelques traits constants qui suffisent à le distinguer de toute autre forme de comique. Le seul fait que ces traits marquent aussi bien les histoires anonymes colportées de bouche à oreille que des œuvres littéraires de haute qualité attire l'attention sur leur profonde raison d'être. Il y a des idées, des situations, des relations humaines qui ne prennent un sens riche que traduite humoristiquement, parce que l'humour seul révèle ce qu'elles contiennent de double, d'ambigu, de secret. Reconnues par de grands écrivains, les propriétés spéciales de l'humour qui toutes se prêtent à une démystification de la pensée offrent à l'art des ressources à peu près inépuisables.
Avant de passer aux écrivains ou aux poètes qui ont créé de l'humour sans être à proprement parler des humoristes, il est nécessaire de s'arrêter sur l'un des écrivains anglais qui est avec Swift l'un des inventeurs du genre, Laurence Sterne. Laurence Sterne est né en Irlande en 1713, comme il le disait lui-même, au carillon de la paix d'Utrecht.
Sa mort, en 1768, s'accompagna d'un incident macabre qui est bien dans la tradition de l'humour. On raconte que le lendemain ou le surlendemain de l'enterrement, le cadavre de Sterne fut volé par des gens se disant « résurrectionnistes » qui le vendirent à un professeur d'anatomie de l'université de Cambridge. Deux amis du professeur assistèrent à la dissection et celle-ci était à peu près complète lorsque l'un d'eux, découvrant la face du cadavre, faillit se trouver mal en reconnaissant l'auteur de Tristram Shandy.
Vrai ou non, cette anecdote prend toute sa bouffonnerie sinistre si l'on songe que Sterne avait choisi le nom de Yorick comme pseudonyme.
Le roman de Tristram Shandy est purement et simplement un prétexte à se moquer de tout. C'est une vraie parodie du livre, prise à la fois comme idée et comme objet. Sterne met partout des pages blanches. Il en écrit d'autres en point de suspension, place la dédicace au chapitre 8 et affirme sa parenté avec Yorick, le bouffon d'Hamlet. Si la naissance du héros n'a lieu que vers le milieu du livre, la préface se trouve au livre 3, chapitre 20. Le désordre de la composition reproduit l'incohérence de la vie. Le chapitre 21, intitulé « Grands événements », traite des préparatifs qui précèdent la naissance de Tristram.
Le docteur Slope, appelé pour l'accouchement, a oublié ses instruments. Il envoie chez lui le domestique de la maison, Obadiah, et celui-ci rapporte les instruments dans un sac dont il a si fort serré les nœuds que le docteur ne peut l'ouvrir. Cette circonstance est l'occasion d'un petit discours sur les nœuds.
Mais ces nœuds, ne croyez pas, je vous prie, que j'ai entendu vous parler dans tout ce que je vous en ai dit de cette espèce de nœud que l'on connaît sous le nom de nœud coulant. Ce que j'ai à dire des nœuds coulants dans le cours de ma vie et de mes opinions viendra beaucoup plus à propos lorsque je parlerai de la catastrophe qui arriva à mon grand-oncle, M. Amon Shandy. Petit homme, fier, haut, turbulent, têtu, d'une imagination vive, ardente, qui se jeta à corps perdu dans les affaires du duc de Monmouth. Mon opinion sur ces sortes de nœuds se développera dans mon chapitre sur les nœuds en général. Les nœuds dont j'ai voulu parler ici n'étaient ni de cette espèce, ni d'aucune autre qui fût facile à défaire.
C'étaient des nœuds d'une espèce diabolique. Et tels enfin qu'Obadiah les savait faire, et qu'il les avait faits, c'est-à-dire bona fide. Il en avait fait un, et même quelquefois deux, à chaque rencontre des bouts de cordon, et les avait entrelacés les uns dans les autres. Tous se tenaient.
C'était plutôt un engrenage de nœuds que des nœuds séparés.
Avec de pareils nœuds et tant d'autres obstacles qui se rencontrent sur le chemin de la vie, un homme pressé prend d'un coup son parti.
Il tire promptement son couteau de sa poche et coupe tout net ce qui l'offusque.
La conscience dicta un autre moyen au docteur Slope. Le cordon n'était pas à lui, c'eût été faire du tort à quelqu'un. D'ailleurs, il était bon, c'eût été dommage de le couper.
Il appliqua donc ses dents à ce travail. C'étaient là ses instruments de prédilection. Il en faisait le plus grand cas. Mais malheureusement, il s'en servit si mal en cette occasion. Il trouva une telle résistance dans les nœuds qu'il n'en avait pas encore défait trois, qu'elles étaient toutes ébranlées.
Diable !
Alors il essaya de faire faire cet ouvrage à ses doigts et à ses pouces. Mais ses ongles en souffrirent encore bien plus vivement.
Que la peste le crève, je n'en viendrai pas à bout.
Cependant, le bruit redoublait autour du lit de ma mère.
Je voudrais qu'il fût à tous les diables. Je ne défrais jamais ses nœuds.
Ma mère jeta un cri perçant qui se fit entendre dans toute la maison.
Charlie, prêtez-moi votre couteau. Il faut bien enfin couper ses nœuds, morbleu, sangbleu.
Mais qu'avez-vous donc?
Ce que j'ai, ne le voyez-vous pas? Mais c'est à moi qu'il faut que cela arrive, à moi qui suis le seul accoucheur de tout le canton. Je me suis coupé le pouce jusqu'à l'os, hein, me voilà bien à présent. Cet accident va me ruiner, je suis perdu. Je voudrais que le diable l'eût emporté avec ses nœuds, l'animal.
Mon père avait beaucoup d'amitié pour Obadiah et ne pouvait pas supporter aisément que le docteur Slope le traitât si mal. Cependant, si cet accident du docteur Slope eût été tout autre chose qu'une simple coupure au pouce, mon père lui aurait passé son emportement. Sa prudence eût triomphé. Mais faire tant de bruit pour si peu. Mon père en fut choqué et se détermina à se venger.
La vengeance de Mr. Chende consiste à obliger le docteur à lire tout haut la formule d'excommunication avec imprécations et malédictions utilisables en toutes circonstances, composée par l'évêque Hermulp de Rochester.
De l'autorité de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et des saints canons, et de la Sainte et Immaculée Vierge Marie, Mère de notre Sauveur.
Mais je pense qu'il n'est pas tout à fait nécessaire que je la dise tout haut. Il y a si peu de temps que vous l'avez lu qu'elle vous admirait. D'ailleurs, je ne vois pas que le capitaine se soucie infiniment de l'entendre. Je la lirai fort bien dans moi-même.
Prenez tout, s'il vous plaît. Cela est contraire au traité et j'entends qu'il s'exécute. Et puis il y a quelque chose de si particulier, de si bizarre, surtout vers la fin, que je serais fâché de perdre le plaisir d'une seconde lecture.
Le docteur Slope n'avait pas encore tout à fait consenti à le faire, et que mon oncle Toby cessa de siffler son Lillaburello et lui offrit de lire à sa place. Mais le docteur Slope, au risque de le voir reprendre le dessus avec son air favori, aima mieux lire lui-même que d'accepter sa proposition. Le voilà donc qui élève le papier au niveau de ses yeux. Voilà aussi mon oncle Toby qui siffle à mi-ton son ariette. Et voilà enfin le docteur Slope qui, au bruit de cet accompagnement, reprend sa lecture.
De l'autorité de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et des saints canons, et de la Sainte et Immaculée Vierge Marie, Mère de notre Sauveur, et de toutes les vertus célestes. Anges, archanges, trônes, domination, puissance, chérubins, séraphins, et de tous les apôtres et évangélistes, et des saints innocents qui, dans la vue de l'agneau saint, sont dignes de chanter les nouveaux cantiques des saints martyrs et des saints confesseurs, et des vierges saintes, et de tous les saints ensemble avec les saints élus de Dieu, puisse Obadiah, pour avoir fait ses nœuds, être damné. Nous l'excommunions, l'anathématisons et chassons de la Sainte Église de Dieu. Puisse le Père qui créa l'homme le maudire, puisse le Fils qui souffrit pour nous le maudire, puisse le Saint-Esprit qui nous régénéra par le baptême le maudire. C'est Obadiah. Puisse la Sainte et éternellement Vierge Marie, Mère de Dieu, le maudire,
Puisse Saint-Michel, l'avocat des saintes âmes, le maudire. Puisse tous les anges et tous les archanges, les dominations et les puissances de toutes les armées célestes, le maudire.
Nos troupes juraient diablement fort en Flandre, mais pas de cette façon-là.
Puisse Saint-Jean le précurseur, et Saint-Jean-Baptiste, et Saint-Pierre, et Saint-Paul, et tous les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, le maudire. Et puisse le reste de ses disciples, et les quatre évangélistes, qui par leur prédication ont converti l'univers, le maudire. Et puisse la sainte et merveilleuse confrérie des martyrs et des confesseurs, qui par leurs saintes œuvres ont trouvé grâce auprès de notre Seigneur Tout-Puissant, le maudire. Nopatia. Puisse le cœur sacré des vierges saintes, qui pour la gloire de Jésus-Christ ont méprisé les vanités de ce monde, le damner, le damner. Puisse tous les saints qui depuis le commencement du monde jusqu'à la fin des siècles seront aimés de Dieu, le damner. Puisse le ciel et la terre et toutes les choses saintes qu'il renferme, le damner. C'est Obadiah, car c'est toujours lui que j'entends.
Mais si ce n'était pas lui qui eût fait ces nœuds...
Cela est égal. Au pis-aller, je dirige mon attention sur la maudite main qui les a faites.
À la bonne heure.
Mon oncle Toby fredonnait toujours son air.
Puisse-t-il être maudit partout où il sera? Dans la maison, dans l'écurie, dans le jardin, dans les champs, sur le grand chemin, dans le sentier, dans les bois, dans l'eau, dans l'église. Puisse-t-il être maudit en vivant, en mourant, en mangeant, en buvant? Qu'il jeûne ou qu'il dorme, qu'il sommeille légèrement, qu'il se promène, qu'il s'arrête, qu'il s'essaye, qu'il se couche, qu'il travaille, qu'il se repose, etc., etc. Puisse-t-il... Cet Obadiah... être maudit dans toutes les parties de son corps. Puisse-t-il l'être à l'intérieur et à l'extérieur. Puisse-t-il être damné dans ses cheveux, dans sa tête.
Diantre. Ceci est terrible.
Dans ses oreilles, dans ses sourcils, dans ses yeux, dans ses joues, dans ses mâchoires, dans ses narines, dans ses grosses et petites dents, dans ses lèvres, dans sa gorge, dans ses épaules, dans ses poings, dans ses bras, dans ses doigts, dans sa bouche, dans son sein, dans son cœur, dans son estomac, dans ses entrailles. Puisse-t-il être damné dans ses reins? Dans ses aines.
Dans ses aines? À Dieu ne plaise.
Dans ses cuisses? Dans ses parties génitales.
Mon père ici ne put s'empêcher de sourire.
Dans ses hanches, ses genoux, ses jambes, ses pieds, ses orteils, ses ongles. Puisse-t-il être maudit dans toutes les jointures et articulations de ses membres, depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante des pieds? Puisse-t-il n'avoir rien de saint dans tout son corps? Puisse le Fils du Dieu vivant...
Mon oncle Toby ne laissa pas achever le docteur Slope. En se jetant sur le dos de son fauteuil, il poussa un sifflement d'une si longue tenue et d'une modulation si plaintive que le docteur Slope en fut interrompu.
Il est intéressant de rappeler ici le jugement que le poète romantique Jean-Paul Richter, théoricien de l'ironie romantique, porte sur Tristram Shandy.
Quoique le plus souvent le comique de Tristram repose sur des petites choses, il n'en est pas moins le comique de la nature humaine. Le vieux Shandy, pour n'être qu'un portrait, représente néanmoins le type de toutes les pédanteries savantes et philosophiques. Les campagnes de l'oncle Toby ne rendent pas seulement ridicule, comme on pourrait le penser, l'oncle et Louis XIV, mais sont l'allégorie de toutes les manies humaines et de cette tête d'enfant qui se conserve au fond de chaque tête humaine comme dans une boîte à chapeaux.
Nous pourrions reprendre à notre compte l'hommage que Jean-Paul rend à l'universalité de Sterne. Sauf que pour nous, ce n'est pas en dépit des petites choses, mais grâce à elles qu'elle peut s'accomplir. Prendre pour objet d'étude des nœuds, des boutonnières ou des moustaches, c'est s'attaquer à l'importance relative des choses et faire apparaître leur inanité. User d'une formule d'excommunication dans l'occasion la plus dérisoire, l'interrompre par les sifflements maniaques de l'oncle Toby et les remarques imbéciles du docteur, c'est confondre le solennel par le futile. Pareille démarche se retrouve partout où l'humour devient une forme de jugement.
Nous avons vu jusqu'ici que l'humour s'exerce toujours aux dépens de quelque chose. Que ce soit la nature humaine, une société déterminée ou le simple fait des existences séparées, toutes les choses apparaissent dans leur peu de réalité. L'ironie romantique n'échappe pas à ce principe. Elle se fait d'abord aux dépens du philistin, c'est-à-dire de l'homme étranger à la poésie. Elle se fait ensuite aux dépens du poète romantique lui-même dans sa lutte contre le philistin. Aussi n'est-il pas rare que le poète romantique tourne précisément en dérision ce qui fait son credo et qu'il avilisse volontairement, par exemple, le surnaturel et le mystère.
C'est ce qui se passe dans la pièce de Christian Dietrich Grabe, dont le titre « Raillerie, satire, ironie et signification plus profonde » révèle clairement les intentions. La signification plus profonde est absolument introuvable. Le diable est sans le moindre mystère. Et le fait qu'il est obligé de se faire ferrer chez un forgeron dit assez qu'il est plus proche du pauvre diable que du démon.
Attends, attends, baron. Tu m'as donné une chambre dans ton château. Je saurais bien me venger. Lydie veut épouser Verntal. Elle va donc être coiffée. J'y mettrai obstacle ou je ne serai pas le diable. Je ne comprends pas pourquoi je suis d'humeur si chatouilleuse aujourd'hui. Je me sens tellement découragée, tellement agitée, tellement mélancolique. Le ciel m'emporte. Le fer à cheval de mon sabot doit s'être détaché. Ah, là, ce n'est que trop vrai. Le fer est parti, usé. C'est à peine si je puis marcher. Oh, misère. Il n'y a pas d'autre remède, hélas, que de vaincre ma douleur et de faire appeler un forgeron. Hola, serviteur!
Vous désirez?
Écoute, mon ami. Y a-t-il un forgeron dans le village?
Il y en a deux, monseigneur.
Eh bien, va, mon fils. Et amène-moi celui des deux qui rit le moins.
Oh, alors je vais aller chercher le gros Conrad, car il est devenu triste à faire peur depuis que l'on a remis la vieille route en état.
Infortuné que je suis. Comment maintenant vais-je amener convenablement le forgeron à comprendre que j'ai un pied de cheval? Infortuné que je suis. Ah, le voilà, courage.
Monseigneur m'a demandé.
Vous êtes le...
Oui, je suis le forgeron de ce village. Où est la rosse que je dois ferrer?
Eh bien, monsieur, je ne suis pas... Suis-je sot?
Mais...
Prenez place, monsieur le forgeron, prenez place. Avez-vous une femme?
Assurément, j'en ai une.
Certainement une brave femme.
Chacun a ses faiblesses.
Oh, bien sûr.
Mais si vous vouliez bien me dire...
Oh, comme vous êtes pressé. Quelle hâte. Et vous êtes père de famille. Vous portez des bottes. Vous avez des pieds. Et moi aussi, moi aussi. Mais je n'ai pas de pied de cheval.
Je le crois sans le voir, monseigneur.
Oui, croyez-le sans le voir, et même après l'avoir vu, monsieur le forgeron. Je n'ai pas de pied de cheval, absolument pas. Tout au plus, Monsieur le forgeron, monsieur le forgeron, vous êtes une belle âme. Élevé dans les principes de la sainte morale. Un chrétien. Hein? Un chrétien pieux et zélé. Fréquente l'église. Eh bien, je peux bien vous le confier. Je porte un sabot à la jambe droite.
Comment un sabot?
Non, c'est moins un sabot qu'un pied de cheval. Plutôt, ça ressemble à un pied de cheval, c'est-à-dire à un pied humain. Bref, une plante des pieds quelque peu épaisse qu'un myope de loin pourrait prendre pour un sabot de cheval.
Mais si monseigneur veut la plante de ses pieds...
L'instant, monsieur le forgeron, l'instant. Auparavant, verrouillez la porte. Verrouillez la porte. Là, parfait. Là. Alors, si vous voulez bien avoir l'amabilité d'y poser votre fer. Hein?
Voilà. Écoutez, monsieur, c'est pas une semelle, mais bien un sabot de cheval, comme pas une autre rosse. Je voulais dire, pas un autre chrétien au monde ne peut en montrer.
Ferré.
Heureusement, j'ai dans ma poche un fer, grand comme un lustre. Je vais vous le clouer là-dessus pour que ça tienne.
Virez, virez.
Voilà. Ça tient maintenant.
Ça tient.
Vous me devez un florin.
Un florin? Il faudrait que je sois fou. Écorcheur.
Mais, monsieur...
Écorcheur, non. Sais-tu seulement qui tu as ferré?
Mais, vous me devez...
Je suis Satan!
Ah!
Je suis Satan! Ah! Je suis Satan! Ah! J'ai 100 000 ans! Et plus encore! J'ai pris l'âme de ton grand-père! Et j'espère bien avoir la tienne! Je te tendrai le cou si tu divulgues un mot de moi! Et tu voudrais que je te paie, gibier de potence!
Comme le pauvre pêcheur a détalé lorsqu'il a entendu mon véritable nom. Mais je dois lui accorder ce mérite qu'il m'a rendu un grand service. Le fer me tient au pied comme s'il avait pris racine. Un juste sentiment de plénitude et de force me pénètre. Maintenant, je vais essayer de dormir une petite heure pour me remettre complètement. Et ensuite, je redoublerai de zèle pour empêcher le mariage. J'ai bien fait d'emporter avec moi le messie de Klopstock. C'est mon somnifère infaillible. Il me suffit d'en lire 3 lignes et je suis fatigué en diable.
C'est encore au surnaturel, mais un surnaturel enfantin, celui des contes de fées, que Ludwig Tieck, poète romantique et rival de Grabe, va demander un renouvellement de la satire. Les frères Grimm ayant mis depuis peu les contes à la mode, Tieck utilisa fort habilement l'engouement du public et dramatisa entre autres le Petit Chaperon Rouge et le Chat Botté.
Le sujet du Chat Botté est celui même du conte enfantin. La grande trouvaille de Tieck consiste à faire intervenir activement le public, spectateurs et critiques, dans la pièce où les répliques venant de la scène et les remarques du public dans la salle alternent continuellement sans égard pour l'action. La virtuosité de Tieck dans l'utilisation de ce procédé évoque Pirandello, mais un Pirandello qui renoncerait au drame.
Là encore, se dévoile l'intention cachée derrière la satire qui vise à créer la confusion. Confusion d'autant plus efficace que la distinction entre les personnages fictifs, ceux de la pièce qu'on est censé jouer, et les personnages réels, les spectateurs et les acteurs, ne peut évidemment pas se soutenir.
Voici comment le héros du conte Gottlieb entre en relation avec le chat Heinz que son père lui a laissé en héritage.
Je vous aime vraiment beaucoup, Gottlieb. Vous ne m'avez jamais caressé à arbrousse-poil. Vous m'avez toujours laissé dormir quand j'en avais envie. Vous êtes toujours intervenu quand vos frères voulaient m'emporter dehors pour observer les prétendues étincelles électriques que je fais dans l'obscurité. Je tiens à vous montrer combien je vous en suis reconnaissant.
Brave Heinz. Ah, quel tort ne vous fait-on pas en parlant de vous avec mépris, en doutant de votre fidélité et de votre dévouement. Les larmes me viennent aux yeux quand j'y pense.
Mes amis, où est notre espoir de voir un beau drame familial?
Ça devient vraiment un peu trop fou.
Ah, mais je suis comme dans un rêve.
Vous êtes un brave homme, Gottlieb, mais pardonnez-moi... Votre esprit est un peu borné, et si je puis m'exprimer franchement, je dirais que votre tête n'est pas des plus remarquables.
Mon Dieu, non.
En ce moment, par exemple, vous ne savez pas ce que vous voulez faire.
Comme tu devines exactement ma pensée.
Si vous vouliez prendre ma peau pour vous en faire un manchon...
Ne m'en tiens pas rigueur, camarade. Cela m'a passé comme cela par la tête.
Oh non! C'était une pensée fort humaine. Ne voyez-vous aucun moyen de vous tirer d'affaire?
Aucun.
Vous pourriez faire des tournées avec moi dans tous les pays et m'exhiber pour de l'argent. Mais cette manière de vivre n'offre aucune sécurité.
C'est juste.
Vous pourriez éditer un journal ou une gazette hebdomadaire ayant pour sous-titre « Homo Somme ». Ou encore écrire un roman que je vous aiderai à écrire. Oh, ce serait trop compliqué.
Oui.
Laissons. J'arriverai bien à vous trouver quelque chose de mieux. Reposez-vous entièrement sur moi et je travaillerai à votre bonheur.
Tu es le meilleur et le plus noble des hommes.
Mais il faut que vous me fassiez confiance.
Entièrement. Maintenant, je connais ton honnêteté.
Bien. Dans ce cas, soyez assez bon pour envoyer chercher le cordonnier. Je veux lui faire prendre mes mesures pour une paire de bottes.
Le cordonnier ? Des bottes ?
Vous vous étonnez ? Mais ce que j'ai l'intention de faire pour vous va me demander beaucoup de courses et de démarches. Il me faut absolument des bottes.
Mais pourquoi pas des chaussures?
Mon cher, vous n'y entendez rien. Les bottes me donneront un air respectable, une allure virile que l'on n'acquiert jamais en portant des chaussures.
Bon, bon, à ta guise. Mais le cordonnier va être stupéfait.
Pas le moins du monde. Veillez seulement à ne pas vous conduire comme s'il y avait quelque chose d'extraordinaire à ce que je veuille me faire faire des bottes. On s'habitue à tout.
C'est pourtant vrai. Je suis déjà tout à fait habitué à t'entendre parler. À autre chose. Maintenant que nous sommes devenus de si bons amis, tu peux me tutoyer.
Hein?
Pourquoi ferais-tu encore des embarras?
Comme tu le désires.
Ah, voilà justement le cordonnier qui passe.
Hé, monsieur Lechdorn, voulez-vous vous arrêter un instant chez moi?
Bonjour. Quoi de neuf?
Oh oui, il y a bien longtemps que je ne vous ai pas passé de commande.
En effet, justement, je n'ai pas beaucoup d'ouvrages pour l'instant.
J'aimerais bien me faire faire une paire de bottes neuves.
Rien de plus facile, je puis vous prendre des mesures tout de suite.
Ce n'est pas pour moi, mais pour mon jeune ami que vous voyez là.
Pour lui? Bon, quel genre de bottes désirez-vous, monsieur?
Je veux d'abord de bonnes semelles, puis des revers bruns. Mais avant tout, un cuir bien raide.
Parfait. Et voulez-vous être assez bon pour rentrer vos griffes ou vos ongles? Vous m'avez déjà égratigné.
Et faites-les vite.
Monsieur a l'air bien gai.
Oui, il est de bonne humeur, il vient de quitter l'école.
Bon, bon. À bientôt.
Ne veux-tu pas aussi te faire couper la moustache?
Mais sûrement pas. J'ai l'air beaucoup plus respectable comme cela. Et tu n'ignores pas qu'ensuite, les chats perdent toute leur virilité. Un chat sans moustache est une créature méprisable.
Ah, si seulement je savais quels sont tes projets.
Mais tu le sauras. Pour l'instant, je vais simplement me promener un peu sur les toits. De là, on a une très jolie vue et il n'est pas impossible que j'attrape un pigeon.
En bon ami, je te demande de faire attention et de ne pas t'exposer à être pris.
Sois tranquille, je ne suis pas un débutant. Adieu.
On dit qu'il ne faut pas se fier aux chats. L'histoire naturelle nous enseigne qu'ils sont de la race des lions. Oh là là, et j'ai terriblement peur des lions. À supposer que le chat n'ait pas de conscience, Hinze pourrait parfaitement décamper avec les bottes et les revendre quelque part. Ou bien essayer d'en tirer avantage auprès du cordonnier pour trouver une place chez lui. Mais le cordonnier a déjà un chat. Non, Hinze, mes frères m'ont trompé. Je vais tenter ma dernière chance avec toi. Il a tenu un langage si émouvant.
Tiens, oh là, le voilà sur le toit en train de se lécher la moustache.
Oh, pardonne-moi, cher ami, d'avoir pu, ne serait-ce qu'un instant, douter de ta générosité.
Quel tissu d'absurdité! Voulez-vous me dire pourquoi les bottes lui permettraient d'aller plus vite? C'est une idiotie!
Moi, j'ai bien l'impression d'avoir un chat sous les yeux.
Silence! On change le décor!
On pourrait contester que les pièces de Tic relèvent vraiment de l'humour parce que les allusions y sont apparentes et qu'une sorte de complicité est proposée d'emblée au lecteur. Mais si elles ne sortent pas du domaine pur de l'ironie, c'est d'une ironie qui emprunte à l'humour sa technique et son mouvement. La technique la plus intéressante ici est celle qui déplace sans cesse la surprise. La surprise est bien entendu provoquée par le surnaturel. l'apparition du chaboté sur scène provoque l'étonnement indigné des spectateurs fictifs qui, très vite pourtant, l'acceptent et l'oublient. Ainsi est créée une situation où l'étonnement va aller à ce qui est le moins propre à la susciter.
Les uns vont s'étonner de ce que l'auteur ait mis des bottes au chat et non des chaussures. Les autres s'étonneront non plus de voir un chat parler, mais de ce qu'il tient des propos incohérents. Les autres, tout bonnement, de ce qu'il ait l'air d'un chat. Personne ne s'étonne des mêmes choses. Personne n'est surpris dans les mêmes raisons. Au milieu de toute cette incohérence, c'est le phénomène le plus insolite, le chaboté, qui paraît le plus normal.
Chez Tic, néanmoins, l'ironie romantique a déjà perdu de sa grandeur. Elle n'est plus que de façon anecdotique. Cet anéantissement du fini devant l'infini, du moi nié par le monde qu'il a créé, qui est pour Jean-Paul la plus haute fonction de l'humour. On ne peut oublier qu'avant Tic, un écrivain allemand qui n'était ni poète ni romancier, mais tout bonnement philosophe, avait donné à l'idée anéantissante toute sa force de développement.
Où trouverait-on plus grande concentration de l'humour, meilleure économie de moyens, que dans les aphorismes de Lichtenberg, pour qui l'humour n'est pas l'expression du scepticisme, mais une manière de vivre le tourment d'une pensée en éveil. Là où Lichtenberg porte son attention, il ne reste pas plus d'illusions possibles ou de réalités incontestables que dans l'objet dans lequel il voyait
un couteau sans lame auquel il manque le manche.
C'était Rire jaune et humour noir par Arthur Adamoff et Marthe Robert, deuxième émission de la série Humour anglais et ironie romantique. Pascal Mazzotti, Edmond Tamise, Jean-Jacques Aslanian et Jean-Pierre Lituac lisaient des extraits d'œuvres de Laurence Stern, de Christian Dietrich Grab et de Ludwig Tieck. Réalisation René Jantet, première diffusion sur la chaîne nationale le 5 avril 1959. À suivre, la troisième et dernière émission de la série, Le jeu du tout et de la partie. D'ici là, vous pouvez télécharger l'émission que vous venez d'entendre sur le site franceculture.fr à la rubrique Des nuits de France Culture.
Il n'aime pas quand tu sens le 19 ou le numéro 5 de Chanel. Il préfère l'odeur du 118 qui fait Fontenay, mérite Vincennes. Mais n'allons pas dans l'excessif non plus. Non, non. Il n'aime pas les filles qui... Ouais, non, ça, il aime pas. Moi j'aime bien quand tu fais le marché et quand tu en reviens et que tes mains sentent les poivrons. Neuroleptique, antidépresseur, anxiolytique. Il y a tant de choses qui se mélangent en lui. Il confond les odeurs et les couleurs. Journée en pensant à toi. S'il a la tête molle, c'est que je bouffe de l'alcool. Par contre, la nuit, il rêve à des pays merveilleux. Poussent les poivrons. Il le fait vous tous les deux et il t'enlève ton foot de gorge. Qu'est-ce qu'il entend? C'est les poivrons. Je perds la raison. Tout a une odeur et une couleur de poivron. Même le docteur a une tête de poivron. Et en perfusion m'injecte du jus de poivron. Mais le docteur me dit réveillez-vous, vous êtes guéri. Oh là là, tap tap tap. tape, on se lève. Vous êtes guéri puisque vous êtes à la clinique des poivrons. Et moi j'aime bien quand tu fais le marché et quand tu en reviens et que tes mains sont de lait. Poivrons.